scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 146, pour le samedi 11 février 2012, le conseil philosophique. Bonjour, je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard, et aujourd'hui je vais vous parler de l'idée du conseil philosophique, donc on peut dire une sorte de philothérapie ou thérapie philosophique, qui n'est pas très connue en Europe, en tout cas, enfin les gens qui étudient la philo en ont entendu parler, mais je pense que c'est quelque chose qui s'est développé jusqu'à présent plutôt dans le monde anglo-saxon. Mais ça reste encore quelque chose de très... enfin, pas très développé, justement. Mais récemment, donc, j'ai lu un ouvrage d'un des professeurs d'université américain qui travaille sur ce sujet, qui s'appelle Lou Marinoff, et il a écrit donc un bouquin qui s'appelle Plato Not Prozac, donc Platon et pas du Prozac, Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems, appliquer les sagesses éternelles aux problèmes de la vie de tous les jours. Et une des raisons pour laquelle je vais vous dire un mot du conseil philosophique, parce que je trouve que c'est une idée intéressante, que peu de gens connaissent, et je me suis dit, ça peut être un sujet intéressant, mais aussi, c'était à cause des événements qui sont déroulés récemment à propos de la psychanalyse, enfin bon, c'est régulièrement maintenant, il y a le débat en France sur le statut de la psychanalyse, le statut scientifique de la psychanalyse qui s'enflamme, et donc récemment avec le documentaire Le Mur, qui a été... censuré suite au procès qui a eu lieu. Bah, je voulais revenir un peu sur cette question du statut de la psychanalyse, parce que c'est vrai que moi je suis assez critique de la psychanalyse, comme la plupart des sceptiques et des éthiciens, je pense. Mais enfin, il y a une opinion que j'entends pas beaucoup, qui pourtant me paraît relativement évidente. C'est, enfin, moi j'ai toujours eu l'impression, il faut dire que j'ai étudié la psycho et la philo, donc je suis un biclassé, comme on dit dans Donjons et Dragons. Et la psychanalyse me semble relever plus de l'anthropologie philosophique que de la psychologie scientifique. Et c'est quelque chose que je me dis, ce serait pas mal d'insérer dans le débat, mais je ne le lis jamais. Enfin, on reviendra sur ça après avoir parlé du conseil philosophique. Donc, l'idée derrière le conseil philosophique que défend Lou Marinoff est que tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours ne sont pas forcément d'ordre psychologique. Si vous allez consulter un psychothérapeute, c'est parce que vous avez un problème comme psychologique du type la dépression, trouble obsessionnel compulsif, une phobie, etc. Mais ça nous arrive d'avoir d'autres problèmes que ça. Alors évidemment, la systémique, les thérapies systémiques se sont un peu spécialisées dans les problèmes familiaux, d'interaction entre les gens, dans la famille. Pour ceux qui ne connaissent pas la systémique, l'idée principale, c'est de ne pas traiter une personne, contrairement à la psychanalyse, mais de traiter une unité familiale, par exemple, et de dire, ben voilà, si l'adolescent est particulièrement difficile dans une famille, eh bien, on va aussi voir ses parents, sa maman, etc. Et la thérapie passe par... C'est une thérapie du groupe familial, de l'unité familiale. Évidemment, les systémiciens sont aussi, font de la thérapie de couple, évidemment. Donc, quand un couple ne fonctionne plus, ils peuvent voir le mari, l'épouse, etc. et travailler de cette façon-là, ensemble ou séparément. Enfin, ça dépend comment ils procèdent, en fonction des problèmes. Évidemment, là, on n'est pas vraiment dans des problèmes d'ordre psychologique de type phobie. On n'est pas dans la psychopathologie. Un couple qui envisage le divorce, c'est pas... mais qui veut quand même se donner une dernière chance en voyant un psychothérapeute, on n'est pas dans l'ordre du psychopathologique, on est dans la psychologie normale, ça peut arriver à n'importe qui. Tous les problèmes qu'on rencontre ne sont pas d'ordre psychologique, alors l'idée c'est de dire, oui mais en fait ces problèmes sont plutôt d'ordre philosophique. Dois-je quitter mon travail? Devrais-je divorcer? Que vais-je faire maintenant que je suis retraité? C'est surtout des problèmes moraux, des problèmes qui relèvent... voilà comment prendre sa vie en main. Et donc l'idée de Lou Marinoff et du mouvement dont il se réclame, donc de conseil philosophique, c'est de dire, hein, mais plutôt qu'un psychologue, dans ces situations, c'est un philosophe qui s'impose. Alors évidemment, la philothérapie ou conseil philosophique se veut brève, très peu de séances. Lou Marinoff va jusqu'à dire que parfois en une séance c'est suffisant. Il décrit son travail comme étant un échange, donc lui, le philosophe, et son client, Et parfois, en fonction de la personnalité du client et de son niveau d'éducation, on lui propose des lectures philosophiques. Donc dans l'ouvrage que je viens de lire récemment, Plato, Not Prozac, il contient toute une série de vignettes cliniques qui illustrent de manière concrète la démarche proposée. Là où ça me parle vraiment, c'est que cette idée-là revient à la philosophie comme elle était à son origine. C'est vrai qu'on sait bien que la philosophie, comme elle est devenue universitaire, elle s'est fort orientée vers la partie théorique, réflexion théorique. Mais à l'origine, une des origines, la Grèce antique, hein, avec les présocratiques. Bon, juste rapidement, il y a trois grandes origines à la philosophie. Hein. Je crois qu'il faut un peu changer l'idée que la philosophie est née en Grèce. Hein. On est un peu revenu de ça. Enfin, en tout cas, il est temps qu'on en revienne. Hein. La philosophie, elle est née en Grèce, en Inde et en Chine. Donc avec les présocratiques en Grèce, avec l'hindouisme et le bouddhisme en Inde. Et donc ce que les Grecs appelaient les gymnosophistes. Et puis en Chine avec Confucius. Et évidemment, le tronc occidental de la philosophie, c'est celui dont nous sommes l'héritier en Europe, mais il y a tout un tronc philosophique oriental, qui est donc de l'Inde et de la Chine, dont par exemple la philosophie japonaise, qui moi m'intéresse particulièrement, est l'héritière. Les penseurs japonais n'ont jamais rencontré la pensée occidentale héritière de la Grèce qu'au moment de l'ère Meiji, donc à la fin du 19e siècle avant ça. Il y a donc deux courants philosophiques. Donc, bon, là, je reviens maintenant, c'était un peu une parenthèse, mais sur les origines de la philosophie, je crois qu'il faut arrêter de dire que la philosophie est née en Grèce. La philosophie à l'occidentale est née en Grèce. Notre façon de concevoir la philosophie est née en Grèce. À cette époque-là, les écoles philosophiques héritières de Socrate, la philosophie, c'était un art de vivre. L'épicurisme, le stoïcisme. C'est ce qui a été montré dans l'excellent ouvrage de Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique. À l'époque, la philosophie, c'était pas tellement de la théorie, comprendre le monde qui nous entoure, c'était ça, mais c'était avant tout un art de vivre. Et donc, on se disait stoïque ou épicurien, on adoptait une façon de vivre. Et donc, évidemment, ces pensées antiques donnent des tas de conseils sur comment vivre, sur comment gérer les angoisses existentielles, le problème de la finitude, donc du fait qu'on va mourir un jour. Donc encore une fois, les stoïciens, les épicuriens, etc., donnent toutes sortes de conseils, de réflexions sur comment mener sa vie et comment penser ces questions existentielles. Et donc le conseil philosophique fait un retour à ça finalement. Et je dois dire que fondamentalement, je suis d'accord avec l'idée de Lou Marunov qu'il faut un peu essayer d'aller à l'encontre de la psychopathologisation de tout et n'importe quoi. C'est un peu aussi un des débats qui entoure la prochaine version du DSM, hein, le manuel diagnostique. Quand est-ce qu'on est vraiment dans l'ordre du normal et quand est-ce qu'on est dans l'ordre du pathologique, du réellement pathologique? C'est un peu un débat permanent en psychologie et en psychiatrie. Mais c'est un peu un problème si tous les comportements finissent, vous savez, par être psychopathologisés, on dit oh, c'est une pathologie, et puis évidemment, une fois qu'ils sont désignés comme une psychopathologie, ça permet de vendre des médicaments pour les traiter. D'où le titre, hein, Plato, not Prozac. Platon et pas du Prozac, c'est l'idée de dire allez à l'encontre de oh, mais voyez, vous avez une petite déprime, voici un médicament. Donc du Prozac. Lisez plutôt Platon ou lisez plutôt un philosophe antique qui va vous parler de comment affronter les questions existentielles. Et donc cette idée du conseil philosophique, je pense, est intéressante pour ça. À l'heure actuelle, comme le conseil philosophique n'est pas très développé, quand les gens ont un problème existentiel comme dont je parlais avant, quitter son travail, divorcer, etc., les individus n'ont souvent nul autre choix que d'aller voir un psychothérapeute. Bon, évidemment, les psychothérapeutes, généralement, ils ont une culture philosophique aussi, donc ils vont jouer ce rôle de conseiller philosophique sans être formés vraiment à la philosophie. Le seul point qui m'a un peu dérangé en lisant le livre, c'est de dire, mais comment est-ce que le philothérapeute choisit les auteurs qu'il invoque dans sa discussion avec son client ou qu'il suggère comme lecture? Peut aisément trouver toutes sortes de positionnements philosophiques et même si on se limite au grand nom. Si un client est devant un problème éthique, est-ce qu'on lui propose de lire plutôt Kant, plutôt Aristote, ou plutôt un utilitariste, ou plutôt les trois orientations? Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu les affinités intellectuelles du thérapeute qui vont jouer à plein, ou celles de son client. Bon, c'est pas forcément un mal, mais ça me pose quand même un peu question. Face à un client, pourquoi privilégier tel ou tel discours? Si je suis un philosophe plutôt d'origine chrétienne, est-ce que je vais donner à lire du Saint-Augustin, du Saint-Thomas, ou est-ce que je vais plutôt donner à lire des athées Enfin, il y a tout un tel corpus de philosophes, c'est difficile à dire. Une autre réflexion que je me suis faite en lisant cet ouvrage est donc justement cette question du positionnement de la psychanalyse. Bon, je sais que la psychanalyse se voulait scientifique par Freud, mais à l'heure actuelle, je pense que le problème, c'est que la psychanalyse est vraiment en décalage par rapport à la psychologie scientifique, aux neurosciences, etc. Mais quand on s'intéresse au domaine dit de l'anthropologie philosophique, l'anthropologie philosophique, c'est en philosophie quand les philosophes s'intéressent à l'être humain. Et il y a une longue tradition d'anthropologie philosophique, évidemment. Mais bon, évidemment, la méthode des philosophes, ça a été très longtemps de s'utiliser eux-mêmes comme propre matériel, en observant leur propre cognition, leur propre volition, ou leurs proches. C'est comme Jean Piaget hein, qui a fait. On pense toujours qu'il est un psychologue de l'éducation, mais en réalité, c'est un épistémologue, c'est un philosophe. Il a construit ses théories principalement donc sur le développement de la cognition, principalement en observant ses propres enfants. Bon, c'est pas un problème dans le champ de la philosophie, c'est un peu plus problématique en termes de psychologie expérimentale, par exemple. Mais donc, on a ce patrimoine, enfin, ces bibliothèques remplies d'anthropologie philosophique. Et puis on a la psychanalyse, mais finalement on sait que Freud s'est inspiré des psychiatres de son temps, mais aussi de Schopenhauer ou de Nietzsche, etc. Et finalement, donc la méthode de Freud, c'est vrai qu'il observe, bon, il fait de l'observation clinique entre guillemets de ses propres patients. Bon, on sait qu'elle a ses limites puisque il fait toute une théorie du développement de la psychologie dans l'enfance sans avoir jamais observé réellement un enfant de sa vie. Et finalement, on est beaucoup plus proche dans la méthodologie employée de l'anthropologie philosophique que de la psychologie scientifique telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, avec de l'expérimentation, avec des tests, avec un usage des statistiques. Bon, maintenant, je n'exonère pas la psychanalyse de ses problèmes, mais justement, si dans la pratique du conseil philosophique, on réintègre la psychanalyse, donc les auteurs psychanalystes dont Freud, Jung et toute la bande, au sein du corpus plus général des philosophes qui ont pensé la condition humaine, ben, on a une toute autre approche. Moi, mon expérience des psychanalystes, enfin, un des problèmes que j'ai avec les psychanalystes, c'est vrai qu'il y a ce culte du maître à penser, bon, la pensée freudienne est une référence. Mais quand on est dans la philo, il y a des tas d'auteurs qui pensent des choses très différentes et les philosophes ont beaucoup moins tendance à ça. C'est vrai qu'on a tous nos philosophes favoris. Moi, je suis fan de David Hume. J'aime beaucoup Kant aussi. Et puis, évidemment, dans l'Antiquité, j'aime beaucoup tout ce qui est les stoïques, les épicuriens. Je suis beaucoup plus du côté des philosophes athées de manière générale. J'aime bien Aristote. Par contre, je suis pas très Hegel, c'est pas trop mon truc. Je sais pas moi, Saint-Augustin ou Saint-Thomas, je les trouve relativement imbuvables. Donc quand on étudie la philosophie, il y a tas d'avis qui sont très contradictoires. Donc forcément, en étudiant, on se trouve des affinités intellectuelles, logiquement. Mais les étudiants en philosophie, de toute façon, même s'ils apprennent à penser avec une référence, ils apprennent à se confronter, donc il y a beaucoup quand même d'esprit critique qui se développe, juste parce que justement, on voit des avis contraires, on se rend bien compte que on essaye de faire la part des choses, etc. On a plus la démarche de dialoguer avec les philosophes du passé que de se mettre à l'école d'un philosophe du passé, je veux dire, de le considérer comme une référence incontestable. Juste pour pondérer ça, si on voit la psychanalyse comme une école philosophique, c'est vrai que les écoles philosophiques antiques, comme le stoïcisme, l'épicurisme, avaient certainement aussi ce culte du maître d'origine et que les auteurs de référence, bon, ben, Épicure pour les épicuriens, pour prendre un exemple facile, certainement que Épicure pour les épicuriens, c'était la référence et qu'ils ne pouvaient pas vraiment critiquer ce que disait en détail Épicure, ils pouvaient juste étendre ce qu'ils disaient. Ce que font les psychanalystes pour la psychanalyse. Mais encore une fois, si on voit la psychanalyse juste comme une école philosophique, et même, je sais pas, la psychanalyse jungienne comme une autre école, ça donne une autre perspective que de dire, ça donne une perspective très différente sur le matériel proposé que de dire, on est dans le domaine de la science, la psychanalyse est scientifique, et de dire surtout, par exemple, des choses qui sont, à mes yeux, complètement fausses, comme on lit dans la presse générale, que Freud a, par exemple, découvert l'inconscient. Non, l'inconscient freudien, c'est une métaphore. Donc, Freud a spéculé l'inconscient. Mais si chaque fois qu'on mettait, au lieu de mettre Freud a découvert l'inconscient, on mettait Freud a spéculé l'existence d'un inconscient d'un certain type, ça met les choses sous un autre jour. Enfin, ça donne un éclairage différent. Donc voilà, moi j'ai toujours eu l'impression que finalement la psychanalyse elle est dans la mauvaise faculté, elle doit être en philosophie ou elle pourrait être critiquée. D'ailleurs il existe, c'est très peu connu, mais il existe ce qu'on appelle la Daseinsanalyse ou l'analyse existentielle qui est une thérapie philosophique basée sur l'œuvre d'Heidegger, hein, donc le Dasein, l'être au monde. Donc la Daseinanalyse, ben voilà, la psychanalyse, enfin la Daseinsanalyse généralement, je pense qu'ils ont, je suis pas un spécialiste du tout, hein, mais ils incorporent des éléments de psychanalyse et de philosophie heideggerienne. Mais voilà, c'est un peu c'est là que ça devrait être et pas du côté vraiment scientifique. Parce que bon, l'observation clinique, c'est bien pour faire des hypothèses, mais c'est pas bien pour les confirmer, quoi. C'est juste, faut pas rejeter l'utilisation des vignettes cliniques comme outil pour forger des hypothèses, mais l'observation clinique sert à forger des hypothèses, pas à les tester. Bon, maintenant, après, chacune des idées proposées par Freud sont à discuter et à critiquer sans les accepter comme des faits, juste parce que Freud l'a dit. Enfin, moi, je suis extrêmement critique, mais je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut conserver de Freud. Juste pour donner un seul exemple, dans L'avenir d'une illusion, Freud argumente que la figure de Dieu, non, particulièrement Dieu des chrétiens, c'est jamais que l'image du Père qui est projetée. Donc, on aurait... alors, quand on est bébé, on voit son père comme tout-puissant, qui récompense et qui punit. Et puis quand on se rend compte que son père n'est pas tout-puissant ou qui punit, eh ben, on projette, on se dit « Ah ben voilà, en fait, finalement, ce père-là, je me trompais à son sujet, mais il y a un autre père qui, lui, est aux cieux et qui est Dieu, et ce père-là aussi, il récompense et il punit. » Bon, je pense que c'est une idée assez évidente, enfin que Freud a le mérite de l'avoir dit dans le domaine de la psychologie de la religion. Il y a un tri à faire dans les idées proposées. Il y a des réactions très dures de la part de la communauté sceptique et zététicienne, et je pense que cette dureté des réactions est justifiée à cause du statut particulier. C'est un mouvement réactionnaire à cause du statut extrêmement excessif que la psychanalyse a en France. Alors les réactions se font dures parce qu'il y a une sorte de ras-le-bol qui s'est installé vis-à-vis de cette mainmise que les psychanalyses ont sur la psychothérapie. Donc je peux le comprendre. Je le partage aussi, ce ras-le-bol, hein, mais maintenant, voilà, je pense que Freud peut avoir une place dans l'histoire des idées, comme un auteur qui était historiquement situé. Donc bon, maintenant, on est passé à la métaphore computationnelle. La conscience, c'est un programme qui est utilisé sur un disque dur qui est le cerveau. La métaphore hydraulique qui est utilisée par la psychanalyse avec les pulsions qui exercent une sorte de pression pour se manifester. C'est historiquement centré, c'est parce qu'à l'époque de Freud... L'hydraulique était était à la mode, etc. Donc voilà, je pense que Freud, c'est finalement un philosophe à remettre dans son contexte et à analyser de manière critique. Et la pratique de la psychanalyse devrait plutôt être, selon moi, intégrée dans la pratique plus large du conseil philosophique. On me dit oui, mais en fait, c'est un conflit entre les thérapies cognitives et comportementales et la psychanalyse, surtout que moi j'avais étudié les TCC à la faculté. Moi je dis c'est pas vrai, c'est pas un conflit entre psychanalyse et TCC, c'est un conflit entre psychothérapie basée sur la science et psychothérapie qui ne sont pas basées sur la science. La psychanalyse, c'est une psychothérapie philosophique. Elle ne correspond plus au canon de la méthode scientifique telle qu'on le conçoit à l'heure actuelle. Les TCC, c'est quoi? C'est simplement les science-based therapies. C'est les thérapies qui utilisent la méthode scientifique pour être développées. Donc je crois qu'il faut arrêter de mettre le débat dans le contexte TCC versus psychanalyse. En réalité, on est thérapie philosophique contre thérapie basée sur la méthode scientifique. Et là, je veux dire, pour rebondir sur ce que je disais avant, sur l'anthropologie philosophique, moi, en tant que... personnes qui sont formées en philosophie ou passionnées de philosophie, je considère toujours que les bons philosophes sont ceux qui prennent assise sur les données de la science. La philosophie va plus loin que la science, mais doit prendre compte de ce qu'on sait en science à l'heure actuelle. Par contre, les philosophes qui se positionnent en porte-à-faux du discours scientifique, C'est pas le type de philosophie dont je suis fan. Oui, un dernier point que je voulais aborder avant de clôturer, c'était de dire que là où on voit qu'on est finalement dans le débat philosophique, c'est un débat philosophique sur la nature humaine. Très souvent, quand je discute encore récemment sur Facebook avec une des personnes avec qui j'étais étudiante à la fac, qui est maintenant psychanalyste, je lui dis, ben oui, les TCC, c'est simplement les thérapies basées sur la science. Sa réponse, c'est de me dire que l'être humain n'est pas étudiable scientifiquement. Bon, ça, c'est vraiment un a priori philosophique. Pourquoi diable est-ce que l'être humain ne serait pas étudiable scientifiquement? Et alors, ce qui me frappe toujours, c'est quand on dit ça, oui, mais alors toute la psychologie scientifique, expérimentale, neuropsycho, tout ça, en fait, il se fourvoie, alors. J'ai l'impression que c'est souvent, ah oui, mais c'est seulement le domaine de la psychothérapie, là qui n'est pas étudiable scientifiquement. La souffrance humaine n'est pas étudiable scientifiquement. Pourquoi diable? Si on sait étudier, je ne sais pas moi, la psychologie de la perception, la psychologie des émotions, la psychologie des cognitions, la psychologie des groupes, pourquoi diable le champ de la psychothérapie serait une exception qui ne serait pas étudiable scientifiquement? Il y a quelque chose, en tout cas chez les défenseurs de la psychanalyse, de profondément finalement anti-scientifique, c'est de dire, ah non, l'être humain a un statut particulier. En tout cas, la conscience humaine ou les comportements humains, eux ne sont pas étudiables réellement scientifiquement. Mais enfin, j'aimerais bien une fois qu'on m'argumente vraiment pourquoi, plutôt que de me faire une confession de foi qui est ah non, moi je considère que l'être humain n'est pas étudiable scientifiquement. Moi j'ai l'impression personnellement, bon, il se pourrait que je me trompe, mais mon idée c'est qu'on a un reliquat un peu religieux qui est que l'être humain donc serait différent du régime des animaux, parce que c'est l'être humain qui n'est pas étudiable scientifiquement. Apparemment, les animaux, même qui ont certains degrés de conscience, comme les chiens, etc., eux sont étudiables scientifiquement. Donc pourquoi l'être humain, hein, c'est un peu. En fait, c'est des psychologues qui n'ont pas pris conscience du fait que la théorie de l'évolution met l'être humain dans le régime animal. Y a pas, l'être humain n'a pas à avoir un statut particulier. L'idée qu'on ne peut pas étudier la souffrance humaine ou la conscience humaine, c'est pourquoi? Parce qu'il y aurait une âme qui donnerait un statut ontologique ou enfin, différent. Les êtres humains seraient radicalement différents du reste de la nature parce qu'ils auraient cette âme, et c'est cette âme qu'on ne saurait pas étudier scientifiquement. Enfin, je crois que c'est très questionnable tout ça, on en a un peu revenu. Je crois qu'il faut vraiment, pour cadrer le débat entre TCC et psychanalyse, il ne faut pas dire que c'est un conflit entre deux modes de psychothérapie. Il y a les thérapies basées sur la science et les thérapies qui sont plutôt d'ordre philosophique, avec des a priori philosophiques ou des positionnements philosophiques comme fondamentalement, par exemple, la souffrance humaine ne serait pas étudiable par la science, qui doivent être questionnées et qui me semblent très, très problématiques, en tout cas. Voilà, c'était mon petit épisode sur la thérapie philosophique ou le conseil philosophique ou la philothérapie. Et avec un petit détour par quel statut est-ce qu'on peut donner à la psychanalyse à l'heure actuelle. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.